Jean-Philippe Gasparotto, je suis le secrétaire général de l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts.
Alors, est-ce qu'on peut définir avant toute chose quelles sont les missions et le périmètre des missions de la Caisse des dépôts pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien en quoi consiste la Caisse des dépôts?
Bah, on peut le faire, mais malheureusement, c'est complexe si on veut rentrer dans le détail. Alors, on va essayer de faire simple. Disons que la Caisse des dépôts, au départ, c'est un établissement public, donc 100% État, 100% fonds publics, qui a la particularité d'être contrôlé normalement par le Parlement et non pas par le gouvernement ou le pouvoir exécutif, et qui avait pour mission historique, qui a maintenant 200 ans d'ailleurs, de protéger l'épargne populaire, les efforts d'épargne et de prévoyance du peuple, des plus démunis ou plus aisés, de les protéger des marchés, de l'avidité des banquiers, etc., mais aussi de les protéger de l'avidité de l'État qui, quelquefois, a tendance à servir dans la caisse de l'épargne des Français pour combler les déficits ou, d'ailleurs, l'origine de la Caisse des dépôts, c'est en fait l'immense déficit creusé par les guerres napoléoniennes et l'impossibilité, donc, restaurer le crédit public. Public, offrir à chacun un service d'épargne et de prévoyance suffisant, c'était la mission historique de la Caisse des dépôts. Sur la base de l'épargne qu'elle centralise et qu'elle protège, elle investit aussi, c'est l'autre mission, sur le long terme, dans des investissements d'intérêt général, en prêtant à très long terme, à faible taux, aux collectivités, aux pouvoirs publics, pour qu'ils puissent construire des logements sociaux, c'est l'essentiel de l'utilisation, mais aussi des équipements et des infrastructures locales ou nationales.
Alors, c'était ces missions. Est-ce que ça veut dire que les choses ont évolué ces dernières années?
Alors, en 200 ans, bien sûr, les choses, elles ont évolué. Alors d'abord, la Caisse des dépôts, bah, en contribuant au financement d'investissements d'intérêt général, elle a aussi été devenue un opérateur. Donc, elle a constitué des filiales autour d'elle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts, c'est certes cet établissement public de base, mais c'est aussi une myriade de filiales autour. C'est environ 125 à 130 000 salariés de par le monde, 70 000 en France. C'est notamment une filiale de transport en commun en milieu urbain qui s'appelle Transdev, qui contrôle beaucoup de réseaux sur le territoire, mais aussi à l'étranger et qui emploie près de 50 000 salariés. C'est une société d'assurance vie qui s'appelle la CNP, qui est la première société d'assurance de personnes aussi en France. C'est la BPI France, qui donc a été créée en 92 et puis qui donc assure le financement ou essaie d'assurer le financement des PME, TPE. Enfin bref, voilà. Donc c'est une série d'activités très diversifiée. C'est aussi un gros opérateur en matière de logement social qui s'appelle la Société Nationale Immobilière, qui est devenue d'ailleurs récemment CDC Habitat et qui possède réunit, disons, pour le moment 320 000 logements sociaux en France et dans les DOM-TOM.
D'accord. Alors, quand on est syndicaliste, quels sont les sujets et les revendications que porte aujourd'hui un syndicaliste au sein de la Caisse des dépôts et consignations?
Ben alors, donc nous, historique, donc on est une structure publique, un statut public, et on a des missions publiques. Et c'est l'essentiel de nos revendications, c'est de sauvegarder cet ensemble de cohérence. Donc, et l'exercice de ces missions publiques, il est aussi garanti par notre statut. Et c'est ce que je disais en introduction. On est normalement contrôlé par le Parlement. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas aux ordres du ministre des Finances et du gouvernement.
Normalement, ça veut dire que c'est pas forcément le cas?
Et alors là, oui, voilà. Normalement, c'est pas forcément le cas, et c'est notamment plus trop le cas depuis la dernière élection présidentielle et la dernière élection législative, où le gouvernement a tendance à ignorer ce principe d'autonomie de la Caisse des dépôts et à pousser les feux pour, je dirais, banaliser un peu le statut de cette Caisse des dépôts, mettre en concurrence certaines de ses missions, contribuer à la mise en concurrence d'autres missions appartenant à d'autres institutions publiques. Donc voilà, c'est faire jouer à la Caisse des dépôts un rôle normalement, elle n'a pas à jouer. Et ceci a bien sûr des conséquences sur l'emploi et sur les statuts des personnels.
Ça veut dire qu'il y aurait une logique marchande de la part du gouvernement dans la gestion de la Caisse des dépôts?
Oui, bah je crois que c'est un souci pour personne, y compris je pense que c'est un peu assumé. Le gouvernement, il est quand même guidé par une idéologie libérale, par le fait que c'est autour du marché que doit se construire, y compris le bien-être social, que c'est à partir d'initiatives individuelles, Macron le dit souvent, etc. Bon voilà, donc dans cette visée idéologique d'extension du marché, il est clair que la Caisse des dépôts peut parfois être une gêne, hein, et qu'il est nécessaire de faire sauter ce verrou sur certains points.
Et quels sont les points particulièrement que...
Le point premier, c'est justement cette histoire de protection de l'épargne populaire. Le livret A, hein, pour faire simple, etc. Le livret A, c'est une épargne qui est très populaire, hein, puisqu'elle a encore, on est à 61 millions de détenteurs, c'est-à-dire que bon, c'est plus de 9 Français sur 10 qui sont, Français et résidents en France, hein, qui sont détenteurs d'un livret A. Donc c'est considérable. Il n'y a pas en termes de densité d'équipement produit d'épargne populaire, il n'y a pas l'équivalent au monde. Donc c'est un produit extrêmement, extrêmement populaire. Il rapporte plus grand chose aux gens, et ça parce que ce gouvernement a bloqué la rémunération du livret à 0,75 pour soit en dessous de l'inflation, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'alors. Mais cela dit, les gens restent fidèles à ce produit parce qu'ils ont confiance. Cette confiance, je pense quand même modestement aussi qu'elle repose un petit peu sur le fait qu'elle est protégée par la Caisse des dépôts et que, bon, en 200 ans d'existence, il n'y a jamais eu de souci. Donc voilà. Mais ça, le gouvernement actuel n'aime pas ça. N'aime pas ça parce qu'il considère que l'épargne populaire, c'est une épargne qui est stérile, pour reprendre ses mots, et qu'il faudrait orienter cette épargne, la fameuse épargne des ménages, vers le financement direct, disent-ils, de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire faire basculer cette épargne du financement d'investissement d'intérêt général comme le logement social vers le financement direct des entreprises.
On l'a vu avec la loi Pacte dernièrement dont on discute en ce moment d'ailleurs. Et puis il y a d'autres points sur lesquels aussi vous craignez de voir cette logique marchande vous toucher.
Oui, bien. Il y a tous les points dans lesquels intervient là. Il y a la structuration aussi du logement social, en fait, à partir de l'opérateur, donc SNI, qui possède quand même pas mal de logements sociaux, mais aussi à partir du rôle de financement du logement social que joue la Caisse des dépôts via les fonds d'épargne populaire, on peut penser que c'est l'objet un peu de la loi Élan, hein, qui sera bientôt présentée en Conseil des ministres. Il y a une modification du système de financement du logement social, voire du concept de logement social lui-même qui est mis en œuvre au travers du territoire par cette loi, par ce projet de loi. Donc, et que la Caisse des dépôts est utilisée un peu comme un outil de banalisation du logement social et de son financement au travers de cette opération. Donc ça, c'est un... Et puis, il y a aussi la logique de concurrence dans les transports publics avec Transdev. On voit bien que cette filiale de la Caisse des dépôts, Transdev, est le premier, finalement, concurrent de la SNCF dans la perspective de mise en concurrence des trains intercités et des TER donc prochaine, et que bon voilà, Transdev se positionne. Alors on a affaire, c'est totalement ridicule, puisqu'on a affaire finalement à la concurrence entre des acteurs entièrement publics. Avec donc en fait la mise en concurrence aussi des travailleurs qui sont dans ces secteurs au péril de leur statut, ce qui nous rejoint le conflit actuellement engagé.
Oui, évidemment, puisque vous êtes tous donc des fonctionnaires et que vous êtes directement concernés par les suppressions qui sont prévues et puis l'agenda des réformes qu'a prévu ce gouvernement.
Oui, alors absolument. Alors bon, effectivement, à la Caisse des dépôts, il y a pas mal de fonctionnaires, surtout d'ailleurs des fonctionnaires occupant des emplois d'exécution. Il y a aussi des salariés souvent convention collective, enfin qui sont soumis au droit du travail. Et c'est vrai que c'est une structure, ça en fait une structure un peu hybride, la Caisse des dépôts, chacun étant attaché bien évidemment à son statut propre, mais nous avons des instances sociales communes. Et en cours de cette question de faire évoluer, en gros adapter les ordonnances Macron tout simplement à la Caisse des dépôts, c'est en test actuellement à la Caisse des dépôts. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un conflit interne.
C'est pour ça qu'on disait que c'était un laboratoire.
Voilà, ça en fait un peu un laboratoire susceptible d'être transposé dans les réflexions en cours au sein de l'ensemble de la fonction publique de l'État et d'ailleurs de toutes les fonctions publiques pour faire rentrer en gros au forceps l'esprit des lois Macron dans la fonction publique. Mais un esprit réduit d'ailleurs des lois Macron, puisque, enfin, ou en tout cas du Code du travail, puisque les attributions par exemple d'expertise, de consultation, les compétences de consultation, de droit d'alerte, etc. Par contre, il n'est pas prévu, elle, de les introduire dans la fonction publique.
D'accord. Et concrètement, ça se réalise comment, en fait, ces changements-là ?
Concrètement, ça s'est réalisé par une évolution législative qui a été intégrée justement dans les ordonnances relatives aux instances sociales qui concernaient la Caisse des dépôts en tant que telle, et actuellement donc par la rédaction d'un décret susceptible de définir des nouvelles instances et sur lesquelles on est en conflit avec la direction et les pouvoirs publics.
Oui, quelles sont vos revendications dans le cadre de ce conflit ?
Nous, ce qu'on revendique d'abord, c'est le maintien absolu de notre rattachement à la fonction publique de l'État et à l'esprit régissant ces instances. C'est aussi pour les salariés sous convention collective le maintien absolu de leur référence au Code du travail et des attributions de contrôle, de consultation, d'alerte, etc., que le droit du travail leur confère ou confère à ses représentants. Donc c'est d'arriver à concilier effectivement les droits de chacun dans un ensemble stabilisé.
On voit bien que chez vous, c'est un laboratoire, mais je pense aussi à ce qui s'est passé il y a quelques années à La Poste. On voit aussi qu'au sein du groupe, La Poste a été un véritable laboratoire de ce que on peut connaître aujourd'hui. Vous êtes réunis pour faire une réunion justement sur un phénomène qui se passe en ce moment à La Poste, puisqu'il semblerait que les postiers soient éventuellement, à un moment donné, destinés à faire certaines missions, à remplir certaines missions que peuvent remplir certains agents des finances publiques. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui on est vraiment en train d'assister à la casse du modèle social français et du modèle des services publics français?
Totalement. C'est-à-dire qu'en fait, la Poste est devenue une société anonyme à notre corps défendant, si je puis dire, puisque il y a maintenant une dizaine d'années. Société anonyme, donc, qui fait qu'elle a accueilli, entre guillemets, à son capital la Caisse des dépôts qui intervient à 25%, les 75% étant l'État. Et donc, on voit bien que par rapport à ça, il y a aussi, pour l'État, pour les pouvoirs publics, un enjeu d'évolution à la fois de la structure de la Poste, de la composition de son capital aussi, mais aussi de la mise en concurrence d'un certain nombre de services. Parce que finalement, la Poste, la présence postale, fait que c'est la seule structure susceptible d'être présente dans des territoires. Même s'il y a eu une diminution, une rétraction de la présence postale, cela dit, ça fait encore un certain nombre de points de contact que veut utiliser l'État dans le cadre de sa stratégie de transfert de charges et de diminution des emplois dans la fonction publique. Alors il y a l'expérimentation actuellement et le projet donc de transférer un certain nombre de tâches actuellement dévolues aux agents de DGFiP. On peut penser qu'effectivement à d'autres choses. Côté Caisse des dépôts, il y a par exemple des tâches qui sont dévolues en matière de contact avec les notaires, avec les élus locaux, etc. De premier contact qui peut être le point d'entrée une vaste opération de transfert des tâches pour équilibrer le compte de la Poste qui est malheureusement frappé par la baisse de l'activité courrier. Et aussi pour faciliter au travers de certaines opérations capitalistiques les opérations de croissance externe de la Poste. Et la Poste joue la concurrence à l'échelle mondiale, notamment sur l'activité de colis avec son groupe Geodis, etc. Et donc elle a besoin, entre guillemets, dans ce projet de faire des opérations de croissance externe, d'investir en capital. Elle les a pas. Donc voilà, il y a cette espèce de course à l'échalote en ce moment. Et c'est vrai que dans lequel la Poste, qui est le dernier grand service public employeur finalement, joue à la fois un rôle ou est à qui on demande de jouer un rôle.
Je pose cette question parce que on nous a annoncé demain matin une SNCF avec des capitaux publics. On a l'impression que finalement la SNCF resterait dans le giron public. C'est pas aussi simple que ça en fait.
Non, parce qu'en public, il faut savoir aussi à un moment donné ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a la Caisse des dépôts, comme je le disais, et à capitaux publics. Mais néanmoins, du point de vue des règles de la concurrence, elle est qualifiée par la Commission européenne d'un comportement d'investisseur avisé, c'est-à-dire jouant dans les règles de la concurrence, les respectant. Ceci, bien sûr, offre un avantage pour les pouvoirs publics, c'est que tout ce qu'elle émet comme dette n'est pas consolidé dans la dette Maastricht, n'est pas constitutif du déficit public. Donc c'est un outil bien intéressant et on pourrait aussi faire la même chose avec la Poste. C'est-à-dire, tout en restant soi-disant public, est en fait totalement banalisé, concurrentiel dans ses règles de fonctionnement financier.